paix. Il est 12h. Le journal de midi. Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous. Jean-Louis Billon, candidat déclaré à la présidentielle, a obtenu, après plus de 10 mois de procédure, son décret de renonciation à la nationalité française. Dès le début de ce journal, là, nous retrouverons le juriste Dizo Kevin pour faire le parallèle avec le cas Tidjane Thiam, qui récemment a entamé la même procédure auprès des autorités françaises. Lutte contre les violences basées sur le genre, le phénomène persiste en Côte d'Ivoire avec plus de 9600 cas en 2024. Information donnée par Namizata Fofana Binaté, la conseillère technique genre chargée de la coopération régionale au ministère de la Femme, était hier l'invitée de Tout savoir sur du CICG. Hors de nos frontières, conflit dans l'est de la RDC, l'Angola affirme travailler à des négociations directes entre Kinshasa et le M23. De retour en Côte d'Ivoire, nous irons à Boaké pour un dossier d'actualité de Joseph Assalé sur la baisse de l'indice de sécurité dans la ville. Et puis l'invité de la rédaction sera Geoffroy Julien Kouaou. Le juriste et analyste politique se penchera sur l'absence du PPACI et de GPS à la création lundi de la coalition pour l'alternance pacifique Côte d'Ivoire-CAPSI. Geoffroy Julien Kouaou sera en fin d'édition avec Francis Cassi. Après plus de 10 mois de procédure, Jean-Louis Billon, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2025, a obtenu le mardi 7 mars dernier son décret de renonciation à la nationalité française, un document qui lui donne l'autorisation, selon le code électoral, de se porter candidat à la magistrature suprême. La durée de la procédure qui a abouti à l'obtention du précieux sésame par Jean-Louis Billon fait penser au cas du président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, qui a entamé récemment une procédure auprès des autorités françaises pour le même but. Ces deux cas sont-ils similaires? La procédure du président du parti septuagénaire va-t-elle aboutir dans les délais requis pour lui permettre de remplir les critères d'éligibilité à la présidence de la République? Là-dessus, nous écoutons Dizo Kevin. Il est docteur en droit privé et sciences criminelles de Nantes Université.
Dans le cas de M. Billon, sa mère étant française, la loi française lui donne accès par la filiation à la nationalité française. Dans le cas de M. Tidjane Thiam, on peut parler d'une acquisition par la naturalisation. Mais dans tous les cas, les deux individus sont concernés par la renonciation par décret. Donc ce qui revient à dire que M. Tidjane Thiam s'inscrit dans le même processus que M. Billon. En la matière, le texte lui-même, c'est-à-dire l'article 23-4 du Code civil français, qui permet donc cette perte de nationalité par décret, ne fixe pas de délai d'instruction de la demande. On va dépendre des différents dossiers qui sont portés devant les autorités françaises. Donc s'il y a une surcharge de dossiers en ce qui concerne les pertes de nationalité, les délais seront plus longs. Mais s'il y a moins de dossiers, les délais peuvent être plus courts. Mais dans tous les cas, il s'agira d'un délai raisonnable. La question maintenant qui se pose, c'est de savoir est-ce que le délai de 10 mois qu'a attendu M. Billon est un délai raisonnable. Quand nous analysons les différentes procédures qui ont déjà eu cours en droit français, on peut dire que ce délai-là est raisonnable. Donc alors, on ne peut préjuger du temps que fera la demande ou la procédure de M. Thiam, qui peut être plus courte ou plus longue.
Dizo Kevin, docteur en droit privé et sciences criminelles de Nantes Université, joint par Mardoché Kouassi. Autre chose, avec la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque a été reçue le vendredi 7 mars à Yamoussoukro par les membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les échanges ont tourné autour de la préservation du patrimoine culturel national et de transmission de valeurs autour de la cohésion sociale et de la paix, témoin pour Radio de la Paix, Emiliao.
La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a de prime abord présenté son département ministériel, sa mission ainsi que ses points de convergence et de synergie avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire avec qui elle entend travailler en parfaite collaboration.
Nous avons décidé de mettre en place une commission mixte qui va nous permettre d'aller en profondeur sur tous les sujets que nous avons abordés et particulièrement dans cette année électorale où les valeurs autour de la cohésion sociale sociale autour de la paix doivent être portées par toutes les institutions.
Sa Majesté Amontanoué Désiré, président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.
Nous sentons bien votre détermination à faire en sorte que nos deux institutions travaillent vraiment ensemble en parfaite synergie. Cela nous a manqué et nous hâtons que ceci se matérialise concrètement.
La ministre de la Culture et de la Francophonie a par ailleurs indiqué que 148 objets d'art ivoiriens spoliés et stockés dans les musées en France font l'objet de discussions avec les autorités de ce pays en vue de leur rapatriement.
Alors 148, il y en a peut-être 200, il y en a encore probablement beaucoup plus. Nous sommes en tout cas concernant la France dans une approche d'inventaire de tous ces biens qui figurent aujourd'hui dans les musées et pour lesquels nous travaillons d'arrache-pied afin qu'ils viennent rejoindre leur terre ancestrale.
Cette annonce a d'ailleurs réjoui l'Assemblée qui n'attend que le retour de ces biens spoliés. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Et puis les justiciables ainsi que les professionnels du droit et les citoyens pourront désormais avoir accès aux arrêts rendus par la Cour de cassation en matière civile, commerciale, sociale et pénale. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu hier mardi la cérémonie de présentation du recueil des arrêts de la plus haute juridiction de Côte d'Ivoire. Jean-Mélène Bitti y était, son compte rendu.
Le choix a été porté sur le secrétaire général de la Cour de cassation, le magistrat Niakale Joachim, pour la présentation de ce recueil des arrêts de plus de 250 pages.
Le recueil a été édité en format A5 avec une couverture aux couleurs nationales et en filigrane la balance de la justice au centre. C'est un document de 257 pages comprenant 75 arrêts rendus en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Et la Cour de cassation ambitionne de publier ce document trimestriellement. Au point de vue de la typologie des décisions, les décisions publiées dans le recueil sont de plusieurs types. Vous trouverez les arrêts de rejet, il y en a 26, les arrêts de cassation, il y en a 17, les arrêts pris en assemblée plénière, 12, les arrêts d'irrécevabilité, 11, les arrêts de sursis à exécution, 4.
Quant au président de la Cour de cassation, Youa Kofi, il s'est attelé à donner la mission de son institution.
La Cour de cassation a pour mission principalement de rendre la justice, de contribuer à la paix sociale et à la consolidation de l'état de droit.
Présente à cette cérémonie, le bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Florence Louan-Messan, s'est réjoui de la sortie de ce recueil.
Pour nous, les avocats, c'est un grand jour. Cela contribue à réduire toutes les poches de corruption. Parce que si vous savez qu'il y a telle décision qui va être rendue, aucun magistrat ne peut se livrer à une aventure solitaire en rendant une décision qui est en dehors de la jurisprudence de la Cour de cassation. Nous souhaitons que ces publications soient faites de façon plus régulière.
Ce recueil fait partie des innovations apportées par le président de cette institution dans sa vision de la rendre plus proche des populations.
La lutte contre les violences basées sur le genre au cœur hier de la conférence de presse hebdomadaire Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Invité pour l'occasion, la conseillère technique genre chargée de la coopération régionale au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Namizata Fofana Binaté, a entre autres fait le point de la lutte en Côte d'Ivoire. Mata Touré nous en parle.
Malgré les acquis en termes d'autonomisation des femmes, de leur promotion et de tout ce qui est fait pour garantir l'égalité des sexes ou encore même la parité, un fléau persiste. Il s'appelle violence basée sur le genre. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Namizata Fofana Binaté est la chargée du genre de la coopération régionale au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.
En termes de statistiques, en 2024, on a enregistré 9607 cas de VBG qui ont été déclarés, dont 920 viols, 287 agressions sexuelles, 25 mutilations génitales féminines, 2030 agressions physiques, 153 mariages forcés, 4394 dénis de ressources, d'opportunités ou de services, 1798 violences psychologiques ou émotionnelles.
Et comme si cela ne suffisait pas, une autre tendance se confirme.
Il y a un phénomène qui est devenu très récurrent, qui est le féminicide, qui consiste à tuer ou la conjointe pour le moment. Ce sont les femmes qui qui en souffrent énormément.
En plus du programme national de lutte contre les VBG, 95 plateformes multisectorielles, les centres de protection de la petite enfance, les centres d'action communautaire pour l'enfance, à 4 centres d'accueil des femmes et d'enfants victimes des VBG en Côte d'Ivoire, le quatrième étant presque achevé, ont été créés. On note aussi la construction de bureaux genre où les survivantes de violences peuvent trouver refuge, la célébration des 16 jours d'activisme contre les VBG. Et avec tout ceci, on a bon espoir.
En prélude à la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain, une rencontre d'échange avec les femmes de San Pedro a été initiée le mercredi 5 mars dernier. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre l'ONG Amour de Mer et l'Association des femmes impactées par la violence et le changement climatique. Des détails avec Kofi Benson.
L'idée de réunir les femmes autour de la question des droits et l'autonomisation des femmes face aux défis du changement climatique à la veille de la Journée mondiale des droits de la femme s'explique aisément. Boko Matide, présidente de l'Association des femmes impactées par la violence et le changement climatique.
Dans toutes les régions, le 8 mars, il faut aller défiler. Non. Avant de défiler, quelles sont les difficultés que vous avez? Quels sont vos droits, vos devoirs? Comment est-ce que vous devez exprimer vos difficultés à l'État? C'est pour cela que nous, on a choisi avant le 8 mars.
Toali Darus, l'un des panélistes, a rappelé aux femmes que le 8 mars peut être célébré autrement.
Il faudrait que les femmes s'attellent à la formation. Quelles sont les pistes, les propositions de solutions que nous pouvons faire aux gouvernants, aux institutions internationales? Ce serait la plus belle manière de commémorer cette journée-là. Ça fait beau de porter des pagnes, organiser des activités ludiques, mais il faut déjà que les femmes se concentrent sur où nous en sommes avec leurs droits, quelles sont les avancées, les défis et comment est-ce que tous nous puissions contribuer pour que l'égalité et l'équité que nous recherchons entre hommes et femmes puissent être effectifs.
Message bien reçu en croix, Yaolou Trazier, présidente de la coopérative Pakeva.
La formation des femmes, c'est important afin que nous puissions prendre notre vie en charge. Parce que quand tu n'es pas formé, tu es ignorante dans beaucoup de choses. Quand il y a un changement climatique, le prix des choses augmente. Quand il y a une crise, c'est les femmes qui en souffrent. Et je pense que cette initiative, elle est très importante.
Une rencontre d'échange qui signe un nouveau départ pour les femmes de San Pedro. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
À Daouko, des récépissés de déclarations ont été remises par les autorités locales à 10 associations féminines de la région. L'un des objectifs étant de leur faciliter l'accès au financement, comme nous l'apprend ici François Kra, notre correspondant dans Les Fous.
Cette initiative vise à donner un sens à l'autonomisation de la femme rurale qui est loin d'être une réalité, selon le député Akoto Olivier.
Il est bien beau de dire organisez-vous, de créer des fêtières. Mais qu'est-ce que vous apportez à ces braves femmes qui sont en milieu rural, qui n'ont pas d'argent? Donc nous donnons les moyens pour pouvoir être constituées légalement, pour pouvoir bénéficier des appuis des structures officielles de l'État, des collectivités locales et même des bailleurs pour pouvoir les accompagner et les soutenir dans leur activité.
Kwame Akissi Adelaide, présidente des commerçantes du petit marché de Baoulékro, salue l'action sociale qui marque, selon elle, le début d'une nouvelle ère.
On a créé notre association depuis, ça nous fait 3 ans cette année. Pour faire les papiers, ce n'était pas facile. On a notre papier maintenant, donc l'État nous connaît. Donc je demande à mes soeurs de venir dans l'association maintenant. Quand on fait une association, ça veut dire qu'on est de même famille. Ça nous aide quoi?
Pour atteindre leurs objectifs, le préfet de l'IFU, Diké Raymond Claude, les encourage à œuvrer selon les valeurs de la devise nationale Union, Discipline, Travail.
Vous pouvez avoir tout ce qu'il y a comme accompagnement, mais si ces trois valeurs-là ne sont pas dedans, ça ne peut pas être possible. Prenons par exemple une coopérative fait une plantation et qu'autour de cette plantation, il n'y a pas d'union, il n'y a pas la discipline des membres. Et si elles ne vont pas aux champs pour continuer d'entretenir, ça va échouer.
Ces femmes ont également bénéficié des conseils de la marraine Yamoussou Thiam, des matériels agricoles et des semences pour les accompagner dans cette nouvelle aventure. François Kra, Daoukro, Radio de la Paix.
En page internationale, le conflit dans l'est de la RDC a été au cœur d'une nouvelle rencontre hier mardi à Luanda entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue angolais João Lourenço, médiateur de la crise. C'est ce qu'affirment les deux présidences. Un rendez-vous à l'issue duquel l'Angola a annoncé que des discussions pourraient s'ouvrir entre Kinshasa et le groupe armé M23. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Boaké, pour un dossier d'actualité aujourd'hui consacrée à la baisse de l'insécurité dans la vallée du Bandama. L'information a été donnée récemment aux populations à l'occasion de la deuxième édition des jeudis du district tribune d'échange mensuel du district autonome de la vallée du Bandama. Joseph Assalé pour les détails.
Pour qui connaît Boaké, il y a un peu plus de 5 ans, l'indice d'insécurité a beaucoup baissé. Témoignage de quelques habitants.
Je suis à la gare routière, derrière mon salon, il y a des petits bandits qui étaient là. Je souffrais et un jour, il y a eu bagarre entre eux. Machette, c'est bien aiguisé. J'ai appelé le commissaire, je vous dis, en moins de 10 minutes, le commissaire et son capitaine étaient là. Là, ils ont fait un travail propre. C'est compétent maintenant. La sécurité, maintenant, ça va. C'est garanti, maintenant, ça va.
On constate une régression du banditisme dans la ville de Boaké. Dans la vallée du Bandama général.
Propos confirmés par le chef de district de la police de Boaké en la personne du commissaire principal Simon Digbeu.
Pour ce qui concerne les vols à main armée, on peut rendre grâce à Dieu au niveau de Boaké, il y a quand même une grande régression. La preuve, en 2023, on a eu souvent 2 cas et en 2024, on a eu 3 cas. Les vols à la roulotte en 2023, il y avait 2 cas, en 2024, on a 1 cas.
Même les viols qui tenaient le haut du pavé des VBG, violences basées sur le genre, beaucoup de chauds lapins ont su dompter leur ardeur libidineuse. Résultat.
Viol, donc il y a eu 8 cas constatés et sur les 8 cas, 6 ont été déférés. En matière de mariage forcé, précoce, il y a eu donc 2 cas et les auteurs ont été déférés.
Outre la saisie de plusieurs tonnes de drogue, des fumoirs ont été détruits selon le commissaire principal, Simon Digbeu.
Nous faisons assez de destruction de fumoirs. Il y en a qui sont à ciel ouvert, il y en a qui sont dans un bafond, il y en a qui sont dans une maison inachevée.
Dans ce même registre, les éléments de la gendarmerie nationale ont aussi sévi, tout comme ils l'ont fait en matière de lutte contre l'orpaillage illégal, fléau qui gagne de plus en plus du terrain dans le district autonome de la vallée du Bandama. Colonel Ouattara Tiornan, commandant de la 3e région de la gendarmerie.
Nous avons détruit plus de 2000 abris de fortune à Niakaramadou.
Tous ces bons points ont été salués par le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi.
C'est un travail important et ce travail important mérite d'être connu de la population pour que ces personnes en uniforme reçoivent ce qu'elles méritent en termes de reconnaissance de leur travail. Faire en sorte que nous fassions ensemble toujours plus et toujours mieux au profit de nos populations.
Il a par ailleurs invité la population à collaborer davantage avec les forces de sécurité. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
L'invité de la rédaction de ce jour est juriste et analyste politique. Pour Geoffroy Julien Kouao, le fait que le PPACI de Laurent Gbagbo et le GPS de Guillaume Soro ne soient pas membres de la coalition pour l'alternance pacifique Côte d'Ivoire en abrégé CAPSI, créée lundi, ne signifie pas qu'ils y sont opposés. Sur le sujet, Geoffroy Julien Kouao répond aux questions de Francis Cassi.
Geoffroy Julien Kouao, bonjour.
Bonjour Francis Cassi.
Alors, l'univers politique vient d'enregistrer une nouvelle naissance. Il s'agit d'une coalition de l'opposition appelée Coalition pour l'alternance pacifique, en abrégé CAPSI. Votre analyse d'entrée.
Tout ceci montre bien que les partis politiques s'apprêtent activement pour l'élection présidentielle du samedi 25 octobre 2025. L'opposition essaie de se donner les chances de victoire et pour y arriver, elle a compris qu'elle devait mutualiser ses forces. D'où la pertinence de cette coalition composée de 25 partis politiques dont le PDCI-RDA, rassemblant autour de lui 24 autres forces politiques, le Front populaire ivoirien, le mouvement des générations capables de l'ancienne première dame Simone Yves Gbagbo et le co-chef de Charles Lécoutier.
Mais cette coalition a été créée sans le PPACI de Laurent Gbagbo et GPS de Guillaume Soro.
Parce que tout simplement, concernant le GPS de M. Guillaume Soro, ce parti politique est judiciairement dissous. Et donc, on ne peut pas, pour l'instant, agir sur l'espace public. Quant à M. Laurent Gbagbo, il est évident que nous sommes là encore dans une stratégie politique parce que le PDCI-RDA a aujourd'hui un président Tidiane Diam, Si le PPHDI entrait dans cette coalition, on pourrait assister à un bicéphalisme entre Laurent Gbagbo et Kylian Kiam. Dans tous les cas de figure, tout ceci montre que pour l'élection présidentielle de 2025, nous aurons une triangulaire, c'est-à-dire le RHDP, le parti au pouvoir, avec certainement Alassane Ouattara, président de la République actuelle, comme candidat. La coalition pour l'alternance pacifique avec la locomotive que constitue le PDCI et Kylian Kiam, et certainement le PPACI, qui va présenter selon toute vraisemblance M. Laurent Gbagbo, tout en espérant que d'ici les élections, les ennuis judiciaires disparaissent.
Donc, est-ce à dire que l'appel de Bonoua lancé par Laurent Gbagbo n'a pas été saisi par la gauche ivoirienne dans le FPI, Blé Goudé, MGC de Simone Gbagbo?
À l'observation, l'appel de Bonoua n'a pas été attendu. C'est donc un échec pour Laurent Gbagbo et le PPACI. Mais dans tous les cas de figure, le PPACI constitue une force politique importante en Côte d'Ivoire, et même seul, le PPACI constitue quand même toujours une force politique à prendre au sérieux en termes électoraux.
Alors, par rapport à la coalition, on dirait que vous anticipez en disant qu'ils vont présenter un seul candidat à la présidentielle. Alors leur projet, c'est cela ou bien c'est pour réunir les conditions selon eux crédibles pour les élections?
D'abord pour eux, il faut un code électoral consensuel et ensuite aller à des élections pacifiques. Mais en tant qu'observateur, à 5 mois de l'élection présidentielle, une telle coalition ne peut avoir pour but final que la mutualisation des efforts. Autrement dit, la présentation d'un candidat unique.
Est-ce à dire que le PPACI et GPS vont faire cavalier à part?
Je pense que, du style point de vue du droit, GPS n'a pas actuellement la possibilité de prendre position dans le débat politique ivoirien parce que officiellement dissous. Mais dans la pratique politique, certainement que M. Sorou Diom et M. Laurent Gbagbo vont avoir des atomes crochus et vont essayer d'aller ensemble.
Est-ce que ce n'est pas là une division de l'opposition? Parce que tout le monde devait être ensemble. Mais le fait d'être divisé, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro d'un côté, qui ne rejoignent pas la coalition, est-ce que ne va pas se retourner contre l'opposition par rapport à ses objectifs pour la présidentielle?
Non, je ne le crois pas. D'abord, ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on a les mêmes programmes politiques, les mêmes idéologies politiques. Et ensuite, cette présentation peut être profitable à l'opposition. Si par extraordinaire, la question de l'éligibilité de M. Laurent Gbagbo était réglée, on aurait 3 principaux candidats à l'élection présidentielle, M. Alassane Ouattara pour le RHDP, M. Kylian Kiam pour le PDCI-RDA et la coalition qui va le soutenir, et M. Laurent Gbagbo pour le PPACI. Dans une telle configuration, en cas de deuxième tour, M. Laurent Gbagbo et M. Kiam n'auront aucun problème à se mettre ensemble.
Alors, le président sortant Alassane Ouattara n'a pas encore déclaré officiellement qu'il est candidat, mais vous laissez entendre qu'il sera le candidat du RHDP. Pourquoi?
Selon toute vraisemblance, M. Ouattara sera le candidat du RHDP. À 5 mois de l'élection présidentielle, on ne peut pas fabriquer un candidat au niveau du parti au pouvoir. Ensuite, tous les responsables du RHDP appellent à la candidature de M. Alassane Ouattara. Et n'oublions pas que le PDCI, aujourd'hui, est soutenu par 24 autres partis politiques. Et si les questions judiciaires de M. Laurent Gbagbo sont réglées, Laurent Gbagbo, ancien président de la République, sera également candidat. Face à ces deux mastodontes de la vie politique nationale, seul M. Ouattara peut leur porter l'estocade électorale. Et donc, le RHDP ne va pas prendre des risques pour présenter d'autres candidatures.
Geoffroy Julien Kouaou, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Francis Cassi.
Aujourd'hui, invité de la rédaction, le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouaou répondait aux questions de Francis Cassi. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait aux 12h, dont voici le rappel des titres. Jean-Louis Billon, candidat déclaré à la présidentielle, a obtenu après plus de 10 mois de procédure son décret de renonciation à la nationalité française. Vous avez eu en début de journal le juriste Dizo Kevin pour faire le parallèle avec le cas Tidjane Thiam qui récemment a entamé la même procédure auprès des autorités françaises. Et puis hors de nos frontières, conflit dans l'est de la RDC, l'Angola affirme travailler à des négociations directes entre Kinshasa et le M23. Merci de votre fidélité. À 15h, un flash information. Mais avant, la revue de presse avec Mel Emmanuel.
Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire renforce son partenariat économique avec les institutions financières internationales.